Vous écoutez l'épisode 168 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous parlons de ludopédagogie et de jeux dans les apprentissages. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Hello, je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous allons parler de jeux et de ludopédagogie. On utilise souvent l'expression « c'est ludique », notamment quand on parle de certaines situations d'apprentissage. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Est-ce qu'on parle de jouer pour apprendre ou d'apprendre en jouant ou des deux? Que veulent dire les mots ludopédagogie? Qu'est-ce qu'on entend quand on veut parler d'apprentissage par le jeu, de jeu éducatif, de jeu pédagogique, de gamification, de serious game, de jeu libre, de jeu symbolique? Quelle est la différence entre tous ces termes qui tournent autour de cette notion de jeu? À quoi ça sert finalement et comment on peut s'y retrouver? Donc dans cet épisode, j'essaie de clarifier tout cela et vous me direz si j'ai réussi à la fin. Et je vais commencer par vous parler de ce qu'est la ludopédagogie pour ensuite vous parler de jouer pour apprendre, puis d'apprendre en jouant. Et enfin, je terminerai par ce qu'est la gamification et je vous parlerai aussi de serious game. La ludopédagogie, c'est en quelque sorte la pédagogie du jeu ou même la pédagogie des jeux. C'est un peu la réflexion qu'on va avoir sur l'utilisation du jeu dans un contexte d'enseignement ou dans un contexte de formation. Comment se servir du jeu quand on veut enseigner ou former? Et donc la ludopédagogie, c'est un petit peu la science qui va étudier tout ça ou la discipline qui va se proposer de questionner tous ces usages. Il y a derrière ça cette idée d'aller chercher quels sont les bienfaits du jeu dans les apprentissages. C'est vrai que quand on pense à quelque chose de ludique, on pense souvent au caractère amusant d'un apprentissage ou d'une situation, au fait que ce soit drôle, peut-être par opposition à quelque chose qui aurait pu être un petit peu rébarbatif ou pénible, pas très motivant. Et donc il y a cette idée, cette volonté de rendre l'apprentissage amusant pour pouvoir en faire un levier de motivation. Et quand on est dans ce point de vue-là, on est plutôt dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à apprendre en jouant. Donc, on a quelque chose à apprendre et on veut le rendre amusant, sympa, pour rester motivé à l'apprendre, voire ne pas se rendre compte qu'on apprend. Et quand on est dans jouer pour apprendre, là, l'idée, c'est qu'on a un jeu, mais qui est fait pour nous permettre d'apprendre des choses, en tout cas, auxquelles on va jouer avec cette intention ou cette volonté de développer des connaissances ou des compétences. Eh bien, en ludopédagogie, on va réfléchir à la façon dont le jeu permet d'assimiler des connaissances, de développer des compétences. On va se demander quelles sont les conditions, quels sont les mécanismes, quelles sont les modalités qui rendent cela possible, qui permettent de pouvoir apprendre en jouant ou de pouvoir jouer pour apprendre, de réfléchir aussi à comment concevoir ces jeux. Et par concevoir, c'est vraiment dans les deux sens de ce terme, c'est-à-dire la conception du jeu en elle-même, mais aussi la conception qu'on en a, comment le voir, le jeu. Et donc, la ludopédagogie, elle va partir du principe que le jeu peut renforcer la motivation, peut renforcer l'engagement, va aussi inciter à faire des choses de manière assez intuitive, sans trop réfléchir, et que le jeu va aussi nous inciter à explorer des choses par ce que le jeu est intrinsèquement. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène d'affordance. C'est-à-dire que le jeu, par ce qu'il est, en soi va induire certaines pratiques, certains usages, va apporter un contexte qui, sans trop réfléchir, va nous amener à faire certaines choses. Donc la ludopédagogie, au final, elle regroupe de nombreux usages du jeu, hein, et elle est complètement différente, et elle va nous permettre de comprendre comment cela fonctionne et comment l'utiliser de manière efficiente dans notre pédagogie. D'abord, je vais commencer par vous parler du jeu tout court. L'idée, c'est vraiment de garder cet usage du jeu où on va laisser les élèves jouer, mais vraiment jouer, en ayant conscience, nous, que quand ils jouent, ils apprennent des choses, mais sans avoir, en tout cas sans partager les enjeux de ce qu'ils sont en train de faire. Et l'idée pour que les élèves soient dans du jeu, c'est que ce jeu, il doit être libre, il doit être fictif, il doit être réglé avec des règles et il doit être incertain, c'est-à-dire qu'on ne doit pas savoir à l'avance ce qui va se passer, qui va gagner, etc. Voilà, on doit s'engager dans un jeu comme quand vous vous engagez dans un jeu de rôle, un jeu de société, etc. Vous avez besoin de vous engager pour pouvoir jouer et vous amuser et être simplement dans le jeu. Vous avez besoin de vous engager librement, d'avoir envie, cette envie de jouer et c'est du jeu à partir du moment où ce n'est pas réel. Il n'y a pas d'impact du jeu dans la vraie vie. Et ensuite, il y a des règles qui sont connues ou qu'on peut construire. Et on s'amuse, on joue pour de vrai. Donc le jeu, ça remplit ces quatre conditions. Libre, fictif, réglé et incertain. Et l'idée, quand on laisse les enfants, les élèves jouer, c'est de les laisser dans l'inconscience des enjeux. Et donc là, on est dans du jeu et on sait par exemple que quand on va leur proposer de jouer aux échecs, ils vont développer tel type de compétences, que quand on va leur proposer de jouer aux petits chevaux, ils vont développer d'autres compétences, au double, ils en développeront d'autres, etc. Mais si on est juste dans du jeu, on est dans du jeu, on n'a pas besoin de leur dire à ce moment-là qu'on joue pour apprendre ou pour développer telle ou telle compétence. On fait confiance au jeu pour que ça se fasse tout seul. Alors, dans le cadre de la classe, on va pouvoir leur dire qu'on leur permet de jouer parce qu'on sait que ça leur apprend aussi des choses et qu'ils développent des compétences. Mais comme c'est libre, de toute façon, ils peuvent y aller comme ils peuvent ne pas y aller. Donc, on ne va pas compter que sur ça pour qu'ils puissent développer certaines compétences. On ne va pas les obliger à y aller. Donc, on parle de jeu libre lorsqu'on est dans une situation de jeu vraiment authentique où les élèves décident de jouer comme ils veulent et à ce qu'ils veulent. C'est vraiment du jeu spontané qui doit rester et être une source de plaisir. Ils peuvent inventer, ils peuvent créer, ils peuvent imaginer. Et c'est ce jeu, on sait que ça stimule l'autonomie, que ça stimule la créativité, que ça stimule l'imagination. Mais c'est un jeu, quand on parle de jeu libre, c'est vraiment un jeu qui n'est ni structuré, ni organisé, en tout cas pas par les adultes. Et certains diraient même que de parler de jeu libre, c'est un pléonasme, puisque le jeu est censé être libre de toute façon. Ensuite, on a le jeu libre, on parle aussi de jeu symbolique. Le jeu symbolique, c'est un jeu d'imitation, un jeu de fiction, un jeu de faire semblant. Les enfants sont capables de jeux symboliques à partir de 18-24 mois, vraiment quand ils commencent à disposer d'images mentales. Donc c'est vraiment le moment où ils font semblant de faire quelque chose. Ils peuvent être soit acteurs d'un rôle. Par exemple, je joue au médecin, je joue le rôle du médecin, ou je joue au cuisinier, je joue le rôle du cuisinier ou de la cuisinière. Ou alors, ils peuvent aussi faire jouer un rôle à un objet. Par exemple, quand on joue à la poupée, quand on joue avec des marionnettes ou avec des petites voitures, on fait jouer un rôle à un objet. Donc, le jeu symbolique peut être du jeu libre, le jeu libre peut être du jeu symbolique, mais pas forcément. Par exemple, dans les classes, notamment dans les classes de maternelle, on a parfois des coins-jeux. Et ces coins-jeux, ce sont des espaces donc aménagés pour y jouer. Ils induisent des contextes. Donc, on retrouve le phénomène d'affordance. Et ce qu'on y fait peut relever du jeu libre, si les élèves y vont comme ils veulent et y jouent à ce qu'ils veulent, ou plutôt d'un jeu éducatif, on en parlera après, si le jeu est induit par l'enseignant dans un contexte d'apprentissage. Donc pour du jeu libre, dans ces coins, on va devoir penser des espaces, ces espaces pour qu'ils favorisent certains usages, certains échanges. On va penser vraiment l'espace pour permettre aux élèves de jouer. Et comme on est dans du jeu libre, eh bien c'est tout cet aménagement qui va induire les usages que les élèves en auront. Donc plus c'est riche, plus il y a du matériel de qualité précis, varié, plus les élèves pourront imaginer des choses différentes. Donc les élèves y vont de façon libre si c'est du jeu libre, quoi qu'il arrive ça reste du jeu symbolique, et si nous adultes on y va et qu'on va vraiment jouer avec les élèves, qu'on rentre dans le jeu qu'ils nous proposent, qu'on fait des propositions mais qu'on est vraiment en train de jouer, là ça reste du jeu libre. À partir du moment où on va dicter des consignes, des comportements ou demander à ce qu'il se passe des choses ou donner des scénarios, là on n'est plus dans du jeu libre. Quand on parle de jeu, on peut aussi penser aux jeux de société qui eux aussi ont pour première vocation de simplement jouer, mais qui, je le disais tout à l'heure, développent également des compétences. Donc pareil, on est dans du jeu libre quand le jeu est à disposition et que les élèves peuvent choisir de se saisir des jeux de société pour s'amuser et pour jouer. Ou alors, parfois on va se servir des jeux de société avec une visée pédagogique particulière, et à ce moment-là, on n'est plus dans du jeu libre. Vous connaissez aussi peut-être l'existence des smart games, qui sont des petits jeux de logique qui font réfléchir, les jeux intelligents, qui vont faire appel à l'intellect. Souvent, ils se jouent seuls, ils sont évolutifs, c'est-à-dire que plus on avance, plus ça devient difficile. Et donc, s'ils sont mis à disposition, que les élèves ont le choix d'y jouer ou pas, ce sont des jeux. Et à partir du moment où on les intègre dans une progression ou dans un atelier, qu'ils deviennent obligatoires et que les élèves sont obligés de les faire pour développer une certaine compétence qui va être explicitée, qui va être évaluée, et bien là on bascule dans du jeu éducatif. Et c'est donc ma transition avec la partie suivante. Donc, apprendre en jouant ou jouer pour apprendre. Là, on a vraiment une différence assez subtile entre ce qu'on va appeler le jeu éducatif, qui est axé sur l'apprentissage, qui est structuré, et le jeu pédagogique, qui va maintenir le plaisir de jouer au centre, mais qui va malgré tout développer des compétences. C'est là qu'on se trouve la plupart du temps quand on fait jouer les élèves ou les personnes qu'on forme. On est soit dans du jeu éducatif, c'est-à-dire qu'on fabrique un jeu ou on en trouve un qui existe déjà et qui est destiné à développer telle ou telle compétence. Et donc les jeux éducatifs sont vraiment pensés pour développer des compétences et là il s'agit d'apprendre quelque chose mais en jouant. Ou on est dans du jeu pédagogique. Et le jeu pédagogique, il est plutôt destiné à renforcer, réinvestir, vérifier les compétences. Et dans ces cas-là, on joue et en même temps, on apprend. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a des jeux conçus pour jouer et qui permettent de développer ou de renforcer des compétences, comme par exemple le jeu Aligali qui est fait pour s'amuser à la base, mais qui, puisqu'il est basé sur des regroupements par 5, il va permettre par la même occasion de travailler les compléments à 5, mais à la base c'est un jeu pour jouer. Et puis il y a des jeux conçus pour apprendre qui permettent aussi de s'amuser en même temps. Et là, si on reste sur l'exemple des maths, on a des jeux comme Matador qui sont clairement conçus pour travailler le calcul mental, mais qui sont conçus pour le faire en s'amusant. Donc un apprentissage ludique, ça peut vraiment être tout ça, jouer tout court, sans savoir qu'on apprend même si le ou la prof sait ce qu'on est en train d'apprendre. Ça peut être jouer à un jeu éducatif qui est conçu pour apprendre ou à un jeu ludopédagogique qui est conçu pour jouer. Quelle que soit l'approche que vous choisissez, vous pouvez vous y prendre de plusieurs manières. Soit vous allez détourner des jeux pour l'apprentissage, c'est-à-dire des jeux qui existent déjà, que vous allez transformer. Vous allez par exemple réutiliser le plateau, les cartes, les pions, les règles, etc., mais à des fins pédagogiques, comme tout à l'heure pour le jeu de la Ligali, ou si vous utilisez votre Dixit en classe, ou le jeu de votre Double, mais en leur donnant des objectifs d'apprentissage. Vous allez aussi pouvoir utiliser ce qu'on appelle des jeux génériques, et d'ailleurs les formateurs et formatrices connaissent peut-être les jeux cadres du ludopédagogue Tiagi. les jeux génériques, en fait, ce sont des jeux, des structures de jeux qui permettent de s'adapter à n'importe quel contexte. Donc, il s'agit vraiment d'un ensemble de règles qu'on pourra adapter pour faire tout ce qu'on en veut avec un peu d'imagination et de créativité. C'est sûrement déjà ce que vous faites dans vos classes quand vous adaptez par exemple des jeux de plateau type jeu de loi, des jeux de loto, des jeux de memory. Vous avez une structure de jeu, un fonctionnement type avec des règles. Ben, le memory, il faut qu'on ait des cartes à retourner et à parier. Et sauf que vous allez le transformer et l'adapter à n'importe quelle situation, que ce soit en langue vivante, pour la lecture, pour des mathématiques, etc. Donc là, vous utilisez en quelque sorte des jeux génériques que vous adaptez en fonction de votre contexte d'apprentissage. On peut, dans ces jeux génériques, on peut par exemple citer la structure du jeu « Seul contre tous » qui consiste à donner un défi à la classe qui devra le relever contre l'enseignant qui est seul. Et quand la classe réussit le défi, eh bien la classe gagne un point ou gagne un joueur. Et quand la classe perd un point ou perd un joueur. Et ce sont les mêmes règles pour l'enseignant ou l'enseignante. Donc soit on part de zéro et puis on gagne ou perd des points, ou soit il y a un nombre de jetons par exemple à se disputer au départ et on prend ou on en perd ou on en prend chez l'autre, etc. C'est un peu la même structure que le jeu Où sont les cerfs, où au départ on est tout seul et puis à chaque fois qu'on réussit à toucher quelqu'un, on gagne un joueur dans son équipe jusqu'à vider l'autre. Bon, bah, si on pouvait imaginer le même jeu où on peut récupérer ses joueurs, eh bien là on a une structure de jeu qu'on va pouvoir adapter à des jeux de vocabulaire ou à des jeux de mathématiques ou à des jeux en histoire géo ou n'importe quelle autre discipline. Une autre structure de jeu intéressante à utiliser en classe, c'est la structure qui s'appelle racine carrée ou cadenne. Donc c'est un jeu générique qui est intéressant quand on a quelque chose de long ou de pénible, de rébarbatif à transmettre, par exemple de nombreux documents à lire ou plusieurs notions à étudier ou quelque chose qui est assez long et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Et bien dans ce cas-là, on divise la notion à apprendre ou le sujet ou le groupement de texte en plusieurs groupes, par exemple 4 groupes. Qu'on va appeler groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, donc 4 groupes numérotés. Et dans chaque groupe, les élèves, on va leur attribuer des lettres. Donc élève A, élève B, élève C, élève D, etc. Et chaque groupe va être chargé d'étudier une partie de la notion ou un texte en lien avec la notion et il devra le faire avec précision et profondeur et aura pour mission ensuite de l'expliquer aux autres. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, une fois qu'ils sont experts donc, de leur sujet ou de leur texte, les élèves vont se regrouper cette fois-ci par lettres, donc tous les A ensemble, tous les B ensemble, tous les C ensemble, etc. Et ils vont pouvoir partager leurs connaissances. Donc ça, vous pouvez le faire sur vraiment n'importe quelle thématique d'apprentissage. Imaginons que vous êtes en train de travailler sur la Révolution française, vous pouvez avoir un groupe qui travaille sur un événement en particulier, un autre sur un autre événement, un autre qui va travailler peut-être sur un tableau ou un texte, et ensuite chacun va devoir expliquer aux autres ce qu'ils ont appris de leur document ou de leur sujet, et en assez peu de temps, ils vont pouvoir glaner différentes informations et confronter leurs informations. Donc ces jeux génériques, il en existe plusieurs, et d'ailleurs pour celles et ceux qui aiment les jeux de rôle, il existe aussi des jeux de rôle génériques, c'est-à-dire des structures de jeux de rôle qui s'adaptent à plein de situations et dans lesquelles on pourrait imaginer, si on est adepte de jeux de rôle, y mettre des situations d'apprentissage. Pour mettre du jeu dans les apprentissages, on assiste aussi depuis quelques années à l'essor de l'escape game. Donc les escape games, ce sont des jeux d'évasion qui sont basés sur une série d'énigmes qu'il faut résoudre à l'intérieur d'une scénarisation. L'idée, c'est d'avoir une vraie narration un peu immersive qui nécessite ensuite de chercher à s'évader dans un temps donné et d'avoir à l'intérieur de cette narration plusieurs énigmes à résoudre pour réussir à s'échapper dans le temps imparti. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de base de l'escape game. Et ensuite, ben, les énigmes, vous allez pouvoir faire des énigmes dans différents domaines d'apprentissage, dans différentes disciplines. Et ces escape games, ils peuvent soit se dérouler grandeur nature dans une salle qu'on va aménager, décorer pour l'occasion, mais ils peuvent aussi se faire à une échelle plus modeste avec juste un plateau, des consignes et un peu d'imagination. Et ils sont vraiment très motivants pour les élèves qui vont vite se prendre au jeu. Ça permet de travailler en groupe et ça permet aussi à l'enseignant d'observer le fonctionnement de ces groupes, de regarder un peu les prises de lead, la gestion du stress, du chrono, la prise de risque, la persévérance, ceux qui motivent leur équipe à aller jusqu'au bout, ceux qui baissent vite les bras, etc. Donc c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Ensuite, pour mettre du jeu dans les apprentissages, on peut aussi utiliser le jeu théâtral de plusieurs manières possibles. On peut l'utiliser pour de la simulation, par exemple, en mettant en scène des situations de vie ou des situations professionnelles pour s'entraîner à mobiliser nos connaissances, à développer certaines compétences en situation simulée. C'est ce qu'on fait souvent en langue vivante, quand par exemple on simule la réservation d'un billet pour partir aux États-Unis en anglais, par exemple, pour pouvoir travailler le langage en situation. Mais on peut aussi le faire pour jouer des situations qui vont nous permettre de mobiliser des compétences mathématiques, comme quand on joue au marchand ou à la marchande, des compétences langagières, des compétences réflexives. C'est un peu ce qu'on évoquait avec Mélanie Rambeau dans l'épisode 166 sur les espaces à scénarios, où elle crée pour ses élèves des scénarios à utiliser dans des espaces aménagés et décorés pour pouvoir travailler certaines compétences. Je vous laisse aller écouter l'épisode si ça vous intéresse. On peut aussi utiliser le jeu théâtral pour développer des compétences psychosociales, développer sa pensée créative pour trouver des solutions par exemple, développer sa pensée critique pour analyser, réfléchir à des dilemmes ou travailler en EMC. Et pour ça, il existe le Théâtre Forum, petite dédicace d'ailleurs à mon amie Élodie avec qui j'avais rédigé un mémoire sur le sujet pour notre titularisation en 2006. Le Théâtre Forum, il s'agit d'une forme de théâtre interactif qui est né du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal et dans lequel, à partir d'une scénette initiale qui va proposer une situation problème, une situation d'oppression initialement, les spectateurs, donc spectateurs parce qu'ils sont à la fois spectateurs mais en même temps ils peuvent agir et prendre part à la résolution du problème, donc les spectateurs peuvent intervenir pour changer le cours des choses et imaginer de nouvelles solutions, réfléchir aux enjeux, etc. Concernant le jeu théâtral, vous pouvez aussi utiliser tel quel ou de façon détournée pour les apprentissages des jeux théâtraux. Vous en trouverez plein sur le podcast de Leïla Camus que j'avais reçu dans deux épisodes il y a très longtemps. Son podcast s'appelle Théâtre à emporter qui contient plus d'une centaine d'épisodes qui sont chacun des exercices de théâtre. Et donc vous pouvez utiliser certains exercices de théâtre pour travailler des compétences en les utilisant comme ça s'il vous parle, par exemple, pour de travailler l'oral, mais aussi de façon détournée pour travailler certaines compétences. Par exemple, dans les jeux théâtraux, il y a un jeu assez connu de présentation qui consiste à se mettre en cercle et ensuite à annoncer son prénom, puis son prénom avec un adjectif qualificatif qui nous qualifie, puis son prénom avec un adjectif et un geste ou un mouvement qui nous convient. Et ensuite, selon les tours, il y a des consignes différentes où on va devoir soit redire le prénom de quelqu'un et son adjectif, soit redire le prénom et l'adjectif de toutes les personnes qui nous précèdent en accumulant pour travailler un peu la mémoire, soit s'adresser à quelqu'un en lui faisant son geste et cette personne, elle va nous répondre en nous remerciant avec notre prénom et notre adjectif. Donc ça, c'est la structure de ce jeu théâtral. Eh bien, on peut par exemple utiliser ce jeu pour réviser l'étape de multiplication. Et donc, on doit donner son prénom et choisir un calcul. Par exemple, je m'appelle Émilie et je suis le 6 x 7 égale 42. Et ensuite, jouer à appeler, à attribuer en fait les multiplications aux autres. Donc j'appelle le 6 x 7, 42, et ça veut dire que c'est moi qui dois répondre, etc. Donc on peut faire ça avec, je vous ai donné là l'exemple des tables de multiplication, mais on peut faire ça aussi avec des dates ou des personnages historiques, ou bien avec du vocabulaire en anglais, ou jouer au jeu en anglais. Donc voilà un exemple de détournement de ce jeu théâtral pour les apprentissages. Un autre jeu théâtral que j'ai découvert en stage professionnel Erasmus il y a 3 ans et que je trouve hyper intéressant, c'est le jeu du frame freeze, c'est-à-dire arrêt sur image. L'idée, c'est que par petits groupes, les élèves doivent mettre en scène de façon fixe un concept ou un événement ou une idée ou une image. Ils doivent le faire comme si on allait prendre en photo. Vraiment, c'est figé, c'est une sorte de mime fixe à plusieurs. Et ensuite, les autres groupes qui auront eux aussi eu à préparer un arrêt sur image devront essayer de deviner ce qui a été mimé. Donc soit c'est un jeu pas très long sur une petite demi-heure et ils ont un petit temps de préparation et ensuite ils le font, soit au contraire ça peut être quelque chose donné sur plusieurs jours où les élèves vont avoir du temps de préparation, où ils vont pouvoir réfléchir au décor, aux accessoires qu'ils vont proposer pour ça. Et puis selon leur niveau, ben, on va pouvoir leur demander éventuellement de rédiger une légende pour leur photo ou un texte pour présenter leur choix ou bien devoir présenter à l'oral leur frame freeze, leur arrêt sur image. Et ça peut être fait à partir d'œuvres littéraires, à partir d'événements historiques, à partir de tableaux, à partir de concepts mathématiques. Par exemple, peut-être qu'un groupe va avoir à mimer le parallélisme, d'autres la perpendicularité, d'autres pourraient avoir le triangle rectangle, enfin voilà, ou les triangles. Donc on peut vraiment imaginer un peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la partie sur le jeu libre, le jeu pour apprendre, apprendre en jouant, etc. Et pour vous donner un petit peu des exemples de tout ce que vous pouvez faire. Quand on parle de ludopédagogie, on peut aussi parfois entendre le concept de gamification ou ludification en français, qui est l'idée de faire de quelque chose un jeu. Quand on parle de gamification, on fait en général référence au fait d'utiliser les leviers du jeu, et notamment du jeu vidéo, du gaming, pour faire d'une expérience, que ce soit une expérience d'apprentissage ou pas, pour faire d'une expérience un jeu et améliorer du coup l'engagement des participants. Donc on peut gamifier un parcours, on peut gamifier une séquence, une séance d'apprentissage, on peut gamifier une formation, mais on peut aussi gamifier une expérience commerciale. L'idée, c'est qu'on va s'appuyer sur les leviers du jeu vidéo. Et ces leviers, ce sont tous les éléments constitutifs des jeux vidéo qui font que les joueurs sont motivés à aller au bout, sont motivés à jouer jusqu'à la fin de la partie ou jusqu'à la fin du jeu, et restent engagés. Donc l'idée, c'est de réutiliser ces leviers dans d'autres contextes que les jeux ou les jeux vidéo. Donc, quand on parle de ces leviers, ça va être par exemple les quêtes et les missions qu'on retrouve dans les jeux vidéo et qui vont permettre d'avoir des objectifs clairs à court terme et à long terme et qui vont jouer un rôle dans l'engagement, de savoir vers quoi on va, qu'est-ce qu'on fait là, dans quelle mission on est. Avec ces missions, dans les jeux vidéo, on retrouve aussi tout ce qui est barre de progression et tout ce qui va nous aider à nous indiquer l'état d'avancement qu'on a dans notre mission, dans nos quêtes, dans le jeu, parce que le fait d'avoir cette barre de progression, ça donne envie d'aller au bout et de terminer, on se voit avancer, ça permet de visualiser l'objectif. Comme autre levier qu'on tire des jeux vidéo, c'est l'idée des gains ou des points, un peu comme les petites pièces qu'on accumule dans Mario, les jeux de Mario, ou les prix, les cadeaux qu'on débloque à chaque niveau, tout ça qui récompense les efforts sans attendre forcément d'être arrivé au bout de la quête, au bout de la mission, mais ça encourage à continuer. Donc ça aussi, c'est un levier de gamification. Donc quête, mission, barre de progression, gains et points. On a également tout ce qui est narration qui donne qui joue sur l'histoire de la quête. Et qui peut donner du coup l'impression qu'on est tout le temps dans une histoire différente, alors que concrètement, si on regarde ce qu'on fait, ça peut être souvent la même chose. Et donc ça, c'est intéressant pour l'entraînement, pour faire plusieurs fois la même chose à des élèves, mais en ayant l'impression qu'à chaque fois le contexte change. Et puis, dans les jeux vidéo, on a aussi les défis et les tours de rôle un peu rapides, comme dans certains jeux sur le principe de « tu perds, c'est mon tour, je perds, c'est ton tour ». Donc ça, c'est un autre levier d'un autre type de jeu, mais qu'on peut utiliser aussi en pédagogie, et qui permet d'attendre son tour de façon un peu motivée. On voit que des fois, les gens qui jouent à des jeux vidéo, même quand il n'y a qu'une manette et qu'on doit se la partager, le fait d'attendre son tour pour pouvoir enfin jouer et se concentrer pour essayer de maintenir son cours, c'est motivant. Ou comme quand on fait, quand on joue au ping-pong, par exemple, et que on attend que quelqu'un perde pour pouvoir le remplacer. Et puis, dans les jeux vidéo, on a aussi les modes multijoueurs qui font interagir des joueurs entre eux. Parfois pour faire chacun dans leur coin des choses très différentes, mais ils peuvent en parler. Ou parfois pour faire des choses différentes, mais qui vont permettre de collaborer et d'aboutir à quelque chose tous ensemble. Ou parfois pour faire ensemble, pour mener ensemble des missions où chacun a son rôle, mais où chacun est indispensable à l'autre. Donc dans les modes multijoueurs. Dans les jeux vidéo, on a aussi cette idée de difficulté croissante pas à pas. Comme quand vous jouez à Tetris par exemple, où au début ça va tout lentement. C'est facile, vous continuez, vous gagnez, vous êtes motivé, vous passez à l'étape d'après. Ça augmente, ça devient de plus en plus rapide. C'est aussi un levier, la difficulté croissante est aussi un levier de gamification. Et on a aussi dans les jeux vidéo les messages d'encouragement ou d'erreur, comme « mission accomplie » ou « you win » ou alors « perdu » ou « game over » qui sont aussi des leviers d'engagement. Donc la gamification, c'est vraiment utiliser tous ces leviers-là hors contexte du jeu vidéo et sans forcément être dans un jeu pédagogique, mais surtout pour que cela soutienne l'engagement. Par exemple, vous voulez que les élèves soient plus calmes dans les temps d'autonomie, de manière collective ou individuelle, vous pouvez gamifier cela en affichant plusieurs missions progressives, réussir à être calme 2 minutes, puis chuchoter pendant 15 minutes, ne pas se lever pendant 12 minutes, etc. et augmenter ça de séance en séance ou de minute en minute. Et donc là, vous n'êtes pas dans un apprentissage disciplinaire, mais par contre, vous êtes en train d'utiliser des leviers de gamification pour améliorer le parcours d'apprentissage en autonomie. Et donc, vous pouvez tout à fait imaginer que l'objectif serait de réussir au bout de 7 jours à travailler en autonomie sans déranger l'enseignante pendant 30 minutes et afficher une barre de progression dans la classe avec l'objectif final et les différentes missions tout au long de la semaine. Et bien là, en faisant ça, vous aurez gamifié, vous aurez utilisé de la gamification. Donc, on pourrait faire la même chose avec une préparation à une évaluation ou avec n'importe quoi d'autre. Et les personnes, par exemple, qui utilisent les ceintures de compétences dans leur classe sont dans une sorte de fonctionnement gamifié parce que les élèves ont des objectifs, voient leur progression, ont des missions, des étapes à franchir, des tests, des choses qui valorisent. Donc, la ceinture qui va être délivrée et qui va valoriser ce travail. Donc, on pourrait dire que le travail en ceinture de compétences est un travail gamifié. Et puis pour finir, je voudrais aussi vous parler très rapidement des serious games parce que c'est aussi quelque chose dont on peut entendre parler quand on parle de ludopédagogie. Donc les serious games ou jeux sérieux, c'est quand on crée un jeu vidéo ou une animation vidéo avec une finalité éducative ou informative ou formatrice ou commerciale. Donc il existe des édu-games qui ont pour but l'acquisition de savoir, et c'est le cas de tous les jeux vidéo qui permettent d'acquérir des compétences disciplinaires. Ceux qui ont connu comme moi jadis le jeu Adibou par exemple, c'était une sorte de prémisse du serious game. Si vous imaginez par exemple un jeu qui permettrait d'apprendre de nouvelles choses en mathématiques ou en histoire, eh bien il entrerait dans cette catégorie de serious game. Et je pense qu'on peut même ajouter dans les édu-games l'application Duolingo qui joue vraiment avec tous les leviers de gamification. Ensuite, on a l'exergame dans les serious games et l'exergame, donc mot valise de exercice et game, c'est un jeu qui va permettre de s'entraîner à réaliser une tâche notamment par la répétition. Donc là, ça va être le cas de tous les jeux vidéo qui permettent de s'entraîner ou de s'exercer. Ce serait le cas, par exemple, d'un jeu qui permettrait de s'entraîner à mieux mémoriser ses tables de multiplication. Ou comme le jeu qui existait sur la Nintendo DS il y a quelques années, le jeu du Dr Kawashima, où c'était un jeu vidéo qui était constitué de plein de petits exercices pour entraîner son cerveau à plus de rapidité ou à mieux mémoriser, etc. Donc, EduGame, ExerGame, on a aussi les NewsGame qui vont permettre, à travers un jeu, de transmettre un message ou une information. Ce serait le cas, par exemple, d'un jeu qui aurait pour but de sensibiliser à une cause ou à un risque. Voilà, donc ça, ce sont des NewsGame. Ah, et puis dans la catégorie des exergames, j'ai oublié tous les jeux qui permettent de s'entraîner physiquement, de faire du sport par exemple grâce aux jeux vidéo. Et puis il existe aussi des social games qui eux visent à développer la collaboration entre les personnes, qui visent à faire les gens faire des choses ensemble. Et enfin, il existe aussi des advergames qui ont pour but de transmettre un message commercial, un message marketing. Donc ça, c'est dans la catégorie des serious games. Voilà, donc vous avez maintenant une vision plus claire, j'espère en tout cas, de tout le vocable qu'il existe autour du jeu en lien avec la pédagogie, et j'espère que cela vous aura inspiré soit des pratiques, soit des idées. Et parfois, eh bien, donc, pour que cela reste du jeu, vous l'aurez compris, vous allez devoir taire les enjeux dont vous aurez évidemment conscience, mais justement pour que cela reste du jeu, tout simplement. Et puis, vous saurez donc pourquoi vous taisez les enjeux. Mais parfois, vous utiliserez des jeux existants avec une visée éducative ou un objectif d'apprentissage que vous aurez créé vous-même ou qui auront été créés par d'autres pour apprendre. Et d'autres fois, vous utiliserez des jeux ludopédagogiques conçus pour jouer, mais qui développent par la même occasion des compétences utiles. Et savoir tout ça vous permettra d'avoir conscience des enjeux pour utiliser le jeu dans votre pratique de manière consciente et intentionnelle. Parce que c'est cette intention, c'est votre intention qui déterminera la façon dont vous introduirez les jeux, la façon dont vous les débrieferez aussi. Parce que lorsqu'on a une intention pédagogique particulière, c'est-à-dire lorsqu'on utilise le jeu pour développer des compétences précises, qu'il s'agisse de compétences disciplinaires ou de compétences psychosociales, le plus important, c'est de ne pas zapper le débriefing, c'est-à-dire le moment où on se demande qu'est-ce que ça nous apprend. Ça peut être ce que nous apprenons en termes de nouvelles connaissances, ou ce que nous apprenons sur nous, ou sur notre fonctionnement en groupe. Ça peut être aussi en termes de stratégie par rapport à ce jeu, si on doit y rejouer. Mais quand on est dans un jeu avec une visée pédagogique, une visée d'apprentissage, c'est important de ne pas omettre cette phase de débrief. Parce que l'idée, c'est que les élèves ne font pas forcément de transfert, n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils apprennent par le jeu. Et donc, quand on est dans du jeu avec une intention pédagogique, donc pas dans du jeu libre où on tait les enjeux, mais dans les autres formes de jeu, eh bien, l'explicitation des objectifs ne doit pas être négligée lorsqu'on apprend par le jeu. Et le débrief, la conclusion, la formalisation de ce que ça nous a appris ne doit pas être négligée non plus pour permettre aux élèves de mieux pouvoir transférer leurs connaissances et leurs compétences.
Merci pour votre écoute. Après gestion de classe mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle « Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner » et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.